Sud Radio, il est 21h.
Parlons vrai.
Tout de suite, les informations.
Bonsoir à tous. Les étudiants pro-palestiniens durcissent leur mouvement en France après Sciences Po Paris la semaine dernière et la Sorbonne hier. Le campus de Sciences Po à Menton, dans les Alpes-Maritimes, est fermé jusqu'à nouvel ordre après l'occupation des locaux par des étudiants. Le site Sciences Po à Toulouse a lui aussi fermé ses portes et le campus de Tolbiac a cessé les cours en début d'après-midi. Visite ministérielle en Israël pour Stéphane Séjourné. Le ministre des Affaires étrangères français a rencontré Benjamin Netanyahou pour lui présenter la politique de la France. Les otages doivent être libérés, le cessez-le-feu doit être signé, la désescalade doit être engagée au Liban. Ce sont les conditions pour la paix en Israël et dans la région, a écrit le chef de la diplomatie française sur le réseau social X. Peu avant cet entretien, le premier ministre israélien avait promis que son armée entrerait avec ou sans trêve dans la ville de Rafah, située dans le sud de la bande de Gaza. La circulaire a été envoyée ce soir au procureur. Elle évoque les mesures d'intérêt éducatif pour les mineurs de moins de 16 ans. Ce texte entrera en vigueur dès la rentrée des vacances de Pâques. Qu'il est à destination des jeunes auteurs de dégradations, d'injures ou encore de troubles à l'ordre public. Ces travaux d'intérêt éducatif consisteront en une activité de 20 heures maximum, une réflexion sur le vivre ensemble et une action de soutien pédagogique impliquant la famille et l'établissement scolaire. Une tribune de personnalité pour soutenir le mouvement MeToo. Une centaine d'hommes s'expriment dans le magazine Elle. Tous s'engagent en soutien aux femmes victimes de violences sexuelles ou sexistes. Parmi les signataires, on retrouve notamment les comédiens Eric Elmosnino, Mathieu Almari, Kreda Kateb, le romancier Laurent Godet ou encore le mathématicien Michel Brouet. Et puis ça passe pour Carlos Alcaraz, Yannick Sinner, Taylor Fritz et Daniil Medvedev au Master 1000 de Madrid. Ils ont tous décroché leur ticket pour les quarts de finale sur la terre battue espagnole. Rafael Nadal affronte dans une quinzaine de minutes le Tchèque Jiří Lehecka. Dans le tableau féminin, Iga Świątek a été la première à se qualifier pour le dernier carré. Bonne soirée à notre écoute.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous ne vous êtes jamais économisé professionnellement à la télévision, à travers ce qui vous semble capital, l'argent bien sûr, jadis et aujourd'hui, à ce qui, à vos yeux, vaut tout l'or du monde, la sauvegarde des forêts. Bonjour Guy Lagache.
Bonjour Jacques.
Alors, on vous connaît à travers votre parcours de télévision, mais on va l'évoquer parce que vous avez fait beaucoup de choses, c'est le principe des clés d'une vie, et on va évoquer ce livre, Le cri de la forêt, qui se rapporte à un documentaire, qui est le récit d'un documentaire très important à vos yeux, et pas seulement à vos yeux, mais pour la planète. Et donc, on va le faire à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 29 janvier 1987. D'après mes archives, c'est votre première télé.
Gouy-les-Groseilliers, 309 hectares, 12 habitants, 4 familles.
Un reportage de l'ANPE Picardie sur Ina Media Pro qu'on trouve. Et vous évoquez Gouy-les-Groseilliers, un village de 12 habitants de 63 à 10 ans.
Mais je n'ai même pas souvenir de ce reportage, c'est étrange. Alors, il se trouve que ma première expérience à la télévision, c'était effectivement cette année-là. Parce que j'avais décroché un stage... à TF1, me semble-t-il.
Exactement.
À la rédaction de TF1. Et c'est là où j'ai découvert, pour la première fois de l'intérieur, l'univers de la télévision. Alors que, par ailleurs, je faisais mes études aux États-Unis. Donc, en fait, l'été, revenant, sur le territoire français, je m'exerçais en tant que journaliste à TF1.
Vous avez fait ce commentaire du reportage. C'est dans les archives de l'INA, c'est assez curieux. Alors, TF1, c'est à Boulogne-Billancourt où vous êtes né, je crois. Et vous avez grandi dans une famille avec un père, je crois, qui était directeur d'une agence de pub.
Mon père était publicitaire. Il a monté tout un groupe d'agences de pub qui était essentiellement spécialisé dans la santé. Et c'est quelqu'un qui a évidemment énormément compté pour moi par rapport à sa philosophie de vie, sa façon, son ouverture et son empathie vis-à-vis des autres.
Oui, et puis en plus, il était dans un univers professionnel en pleine expansion, parce que la santé, on n'en parlait pas beaucoup à l'époque, Guy Lagache.
Oui, alors d'une part, c'était en pleine expansion, à la fois sur l'aspect du contenu, c'est-à-dire la santé, et à la fois par la pub. On est dans les années 70 et 80, et la pub a explosé à ce moment-là, Et donc, il était effectivement dans un métier qui était l'illustration d'une transformation dans les façons de consommer, d'une certaine manière.
Et dans votre famille, il y a aussi un grand-père diplomate, je crois, qui est un héros de la Seconde Guerre mondiale, qui a débarqué avec la 2e DB aux côtés du général Leclerc.
C'est tout à fait vrai. D'ailleurs, mon grand-père et ma grand-mère m'ont inspiré l'écriture de mon premier roman. Parce qu'ils se sont rencontrés au moment où allait basculer la France dans la collaboration en 1940. Lui était diplomate dans le gouvernement de Paul Reynaud et ma grand-mère, et il était marié avec un enfant. Et il a rencontré, alors qu'il était déjà marié en Chine du Nord, une jeune Britannique d'une vingtaine d'années et ils se sont rencontrés dans des conditions donc absolument particulières parce que à ce moment-là l'État français était aux mains du maréchal Pétain qui se détourne de l'Angleterre pour se rapprocher de l'Allemagne. Et donc si vous voulez, c'est une histoire d'amour qui a un impact ou qui est impacté par la politique d'une certaine façon et dont les choix personnels et politiques sont intimement liés.
Et la 2e DB, pour celles et ceux qui ne l'ont pas oublié, bien sûr, elle a libéré Paris, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'elle a été formée en Angleterre et qu'elle a débarqué sur la plage d'Utah Beach, conquise de 6 juin, mais le 1er août 1944.
Tout à fait, il y a même un document photographique qui montre mon grand-père aux côtés du général Leclerc, en train de débarquer sur la plage depuis une barge, c'est ce 1er août 1944.
Et ils vont libérer plusieurs villes, Alençon jusqu'à Paris, le 22 août. Alors, il se trouve aussi que le journalisme, Guy Lagache, ça vous a tenté depuis vos jeunes années. Vous racontiez des histoires quand vous étiez enfant.
Oui, en fait, si vous voulez, j'étais quelqu'un qui était assez mauvais élève dans les petites classes et assez rêveur. Et j'adorais les histoires. Je lisais beaucoup, ma grand-mère me faisait lire. Et par ailleurs, mes parents avaient des amis journalistes.
Au Figaro, je crois.
Absolument. Jean-Marc Calflèche, qui était un spécialiste de l'Afrique, et Geneviève Dorman, qui était romancière, et qui me racontait leurs reportages quand j'étais adolescent. Et ça me fascinait. Et donc, si vous voulez, la conjonction des histoires, des gens qui me racontaient le monde et la volonté, parce que j'étais assez curieux, de m'éduquer, alors même que j'étais un élève relativement médiocre, a fait que je me suis dit, mais ça, c'est la profession que j'ai envie de faire.
Et le côté élève médiocre, vous êtes retrouvé dans une pension, je crois, le collège Sévenol, à Chambon-sur-Lignon, qui est un collège très particulier, où je crois il n'y a ni porte ni mur.
Alors oui, il y avait quand même des murs, parce que au Chambon-sur-Lignon, on est quand même à 1000 mètres d'altitude, donc l'hiver il faisait assez froid. J'avais été par deux fois dans un pensionnat, et en effet, pour passer mon bac, je suis allé au collège Sévenol, qui était un collège des justes, qui avait notamment recueilli des enfants juifs pendant la guerre, et qui est donc inscrit à Yad Vashem, et qui n'existe plus, ce collège, parce qu'il y a eu un drame il y a 10 ans, et donc le collège a fermé, mais en effet, c'était un collège protestant, donc fondé beaucoup sur la responsabilité individuelle, et moi, ça m'a été utile, parce que ça m'a permis d'avoir mon bac de façon claire, et alors que j'étais évidemment tenté à l'époque par les divertissements qu'il y avait à Paris en tant que gamin de 17-18 ans.
Oui, et ensuite après le bac, c'est une maîtrise d'histoire à Nanterre, et puis ensuite des études de journalisme à New York.
À Columbia, oui. En fait, j'ai fini mes études d'histoire à Columbia, et j'ai enchaîné sur un master de journalisme à l'école de journalisme de Columbia.
Et pourquoi justement Columbia à New York, qui est une université prestigieuse? Je crois que ça a été la première école de journalisme au monde, qui a été fondée par Joseph Pulitzer, qui a créé le prix Pulitzer.
Absolument. Pourquoi? Parce que la presse américaine, alors, était une presse que je lisais beaucoup, mais ma grand-mère, mon beau-père, et c'était la presse américaine faisait partie des lectures quotidiennes des journaux. Et si vous voulez, j'étais vraiment fasciné par la façon avec laquelle le journalisme s'exerçait dans la presse aux États-Unis, qui n'était pas du tout une presse d'opinion comme en France, mais qui était une presse de décryptage. J'ai voulu aller faire mes études là-bas parce que je voulais m'ouvrir à autre chose et je voulais comprendre et savoir comment faire ce type de journalisme-là. Et ça a changé ma vie, en fait, parce que ça m'a ouvert à des horizons que je n'imaginais pas, en étant dans une ville, à savoir New York, qui était un laboratoire pour un journaliste, c'est-à-dire que vous couvriez la ville de New York, et c'était ça, en gros, l'école de journalisme.
Oui, mais c'est pas facile d'être admis là-bas.
Non, c'était très difficile. Alors, il se trouve que j'ai changé quand même. Je ne suis pas resté un élève médiocre. Je me suis réveillé à partir du moment où j'ai voulu devenir journaliste. C'est-à-dire que, à partir du moment où j'ai su ce que je voulais faire, je n'ai fait que focaliser sur le fait de me donner les moyens de le faire le mieux possible. Et ça a commencé par m'éduquer. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis mis à lire, je me suis mis à apprendre, et les résultats se sont fortement améliorés au cours de mes années lycée, puis universitaire. Et ça m'a permis de faire de bonnes études.
Oui, et vous dites aussi, d'ailleurs, que la réussite est une obligation aux États-Unis.
Oui, alors, c'est surtout que, j'ai envie de dire, d'abord, l'échec est accepté aux États-Unis. Et donc, ça vous permet encore mieux de réussir et de tirer les leçons d'un échec. On pardonne les échecs. En revanche, on se doit d'essayer. Et donc, il y a une espèce de positivisme dans l'engagement des choses, vis-à-vis des choses. Et moi, j'ai adoré l'éducation anglo-saxonne parce que elle correspondait sans doute à mon état d'esprit, c'est-à-dire d'être très empirique, d'être très didactique dans la façon d'apprendre, de pousser les uns et les autres à avoir une analyse qui est propre, son propre point de vue, à travers évidemment les livres et à travers la chose académique.
Et vos premiers reportages, c'est d'un journal étudiant sur le rap, je crois.
Alors, mes premiers reportages ont été publiés dans un journal qui s'appelait The Bronx Beat, c'est-à-dire un journal dédié au Bronx. Le Bronx était le quartier le plus criminel des États-Unis et le plus pauvre. Et l'université éditait ce journal parce que aucun média n'allait dans le Bronx. Et donc, pendant l'année où j'ai fait mon master, j'ai couvert le Bronx. Et parmi les choses que j'ai couvert, il y avait ce style artistique qui a révolutionné la musique et la culture populaire, le rap. Pourquoi ? Parce que le rap est né dans le Bronx. Et donc ça m'a passionné d'aller raconter celles et ceux qui inventaient la musique qu'on écoute, il se trouve aujourd'hui, et de raconter la société aussi à travers le rap.
Et un dernier point, vous êtes revenu avec un titre, celui de meilleur étudiant étranger, Guy Lagache.
Oui, il se trouve que...
Henry Taylor Howard.
Exactement. Qui est mort en couvrant la guerre du Congo, figurez-vous. Qui est donc le théâtre de mon nouveau livre. Oui, il se trouve qu'on m'a décerné ce prix-là, et j'étais assez fier d'ailleurs.
Vous avez raison. Et puis il y a eu ensuite d'autres choses, et il y a une date importante dans votre vie, c'est le 17 août 2003. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Guy Lagache.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Dites donc, cher voisin, on s'est offert une pergola.
Oui, une pergola bioclimatique à prix direct usine. Et je l'ai montée moi-même.
Et tu l'as dénichée où, cette petite merveille ?
Sur usineonline.com. Tu choisis tes options et dimensions. Tu trouves tout. Des pergolas, stores, carports, portes, portails, peintures.
Des fenêtres et volets aussi ?
Tout. Et en ce moment, ils sont en promotion à moins 30% avec livraison offerte.
Usineonline.com ? Faut que j'en parle à ma femme. Chérie !
Usineonline.com. Cliquez, commandez et profitez.
Sud Radio Cahors.
105.
Sud Radio. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie. Mon invité Guy Lagache. Nous parlerons tout à l'heure de ce livre, Le Cri de la Forêt, aux éditions du Rocher, qui est un événement et qui est une leçon de vie sur laquelle il faut réfléchir. On a évoqué vos débuts d'étudiant aux États-Unis. Et puis, le 17 août 2003 est une date importante. « Vous souriez en écoutant le générique, ouais. Capital, car ce jour-là, vous devenez l'animateur de cette émission.
Absolument. J'avais été à Capital reporter à l'époque où Emmanuel Chin en était non seulement l'incarnation, mais le patron. Et quand Emmanuel a décidé de quitter Capital, je sais que lui avait suggéré mon nom à Nicolas Taverneau, le président d'M6, mais Nicolas Taverneau m'a proposé de prendre la succession d'Emmanuel, alors que moi je n'étais pas du tout présentateur, si vous voulez. Ça a été évidemment une opportunité formidable. D'abord parce que c'est une émission que j'aime toujours aujourd'hui, mais que j'ai aimé faire passionnément. Et ça m'a appris à faire des choses que je n'imaginais même pas faire en tant que reporter. C'est-à-dire la présentation, c'est la partie émergée de l'iceberg, si vous voulez. À l'époque, ça voulait dire en plus diriger un des paquebots principaux d'M6, à savoir Capital, qui était l'émission d'information du dimanche soir avec Zone Interdite. Donc ça a été une aventure extraordinaire qui était complexe, parce que quand vous passez derrière Emmanuel, qui avait très fortement incarné cette émission, il s'agissait aussi de faire évoluer petit à petit l'émission. Et ce qui a été très intéressant pour moi, c'était d'inscrire l'économie dans une forme d'urgence d'actualité pour le public. Et ça a correspondu en plus à un moment donné où l'économie devenait centrale dans l'actualité. Pourquoi ? Parce que on parlait du travailler plus pour gagner plus, c'est-à-dire que les politiques s'emparaient de l'économie pour en faire l'axe stratégique de soit de leur campagne, soit évidemment de leur plateforme politique. C'est à ce moment-là aussi qu'est arrivée la crise des subprimes dans cette décennie, si vous voulez, des années 2000. Et donc, j'ai vraiment inscrit Capital dans l'actualité la plus chaude, là où, me semble-t-il, quand je travaillais à Capital en tant que reporter avec Emmanuel Chin, on racontait l'économie comme on l'avait jamais raconté. Donc on découvrait les coulisses de l'économie. Là, il s'agit, c'est plus seulement de découvrir, mais c'était d'emmener le téléspectateur dans des thématiques qui devenaient urgentes pour comprendre le monde qui nous entoure et l'actualité immédiate.
Oui, il faut savoir aussi qu'au départ, Capital, c'était un magazine d'information qui devait s'appeler Investir, parce qu'il était patronné par Investir, et puis finalement, Emmanuel Chin s'est dit, c'est peut-être trouver autre chose si le journal se désiste, et c'était 12 minutes au départ qui sont devenues une émission très importante. Et c'est vrai qu'à l'époque, je ne sais pas si vous le savez, mais il n'y avait rien sur l'économie à la télévision. Il y avait le Telex consommateur, qui existait depuis 64, on indiquait par des dessins animés d'une minute le prix des légumes dans certaines villes de France.
Mais vous savez, moi j'ai voulu travailler dans cette émission alors même que je m'étais toujours dit deux choses quand j'étais à l'université. Un, je ne ferai jamais de sport, et deux, jamais d'économie, parce que je considérais ces deux matières comme étant barbantes, ce qui était absurde. Et il se trouve qu'un jour, je me retrouve un vendredi soir, à l'époque où Capital était sous forme de 26 minutes, et je vois un reportage sur Coca-Cola, qui a été fait par un de mes copains, donc, mais à l'époque, je ne le connaissais pas. Je vois ce reportage, je ne sais pas dans quelle émission ça se trouve, je vois ce reportage sur la 6e chaîne, et en voyant ce reportage, je me dis, mais c'est ça que j'ai envie de faire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le génie de cette émission, c'était de raconter l'économie, non pas d'en haut, comme une matière de sachant, mais d'en bas, par l'activité humaine, par des histoires humaines. Et ça m'a tout de suite, je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire. Et je suis allé voir Emmanuel en lui proposant, je ne connaissais pas Emmanuel Chin, et en lui proposant un reportage sur Hong Kong comme plateforme du commerce mondial. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à travailler pour cette émission qui est devenue en effet ensuite un grand prime time du dimanche soir tel qu'il est aujourd'hui.
Alors qu'avant, vous étiez plutôt un reporter sur les terrains de guerre, le retrait des Russes en Afghanistan, la naissance de Solidarnosc, vous avez tout fait.
Alors oui, enfin ça c'était des sujets que je faisais en news, etc. Mais j'ai surtout, je me suis exprimer en magazine, en faisant de l'économie au sens large, avec Capital, pour raconter des histoires humaines sous forme de longues enquêtes documentaires, et qui, en revanche, m'emmenait sur différentes typologies de terrain, parce que ce que je crois qui était très intéressant, et c'était le cas à la fois quand j'étais reporter, mais ensuite présentateur, c'était de lever le voile sur des aspects de la mondialisation qu'on connaissait pas forcément. Or, la mondialisation, c'était quand même un des piliers de l'économie, et qui l'est encore aujourd'hui, mais qui s'est très très fortement développé après la chute du mur et jusqu'à maintenant. Et ça, pour moi, c'était vraiment important de le raconter au public.
Ce qui est étonnant avec vous, Guy Lagache, c'est que vous passez d'un sujet à un autre. C'est-à-dire que vous avez commencé aussi sur France 3 pendant 2 ans, en assurant la coordination du journal du soir. Ça n'a rien à voir avec Capital.
Non, mais je veux dire, dans la vie d'un journaliste, d'abord, il y a différentes vies. Moi, j'ai appris auprès de mes aînés. Et mes aînés, au-delà des professeurs que j'ai eus à Columbia, qui étaient des grands journalistes, ça a été Christine Ockrent, Hervé Chabalier, Christine Ockrent. Et Christine, que j'ai rencontrée au début des années 90, m'a engagé quand elle a dirigé le journal du soir sur France 3. Ça y est, la première chose. La deuxième chose, c'est que pour faire des longs formats, il faut commencer par faire, de mon point de vue en tout cas, des petits formats. Et je pense que le news a été extrêmement formateur me concernant. Faire des sujets d'une minute, puis deux minutes, puis trois minutes, puis quatre minutes, etc. Et ça vous apprend à avoir le sens de l'information, à avoir le sens de la synthèse, à avoir des réflexes journalistiques. Et ça, je les ai appris en étant à France Télévisions, à la rédaction nationale de France 3 notamment, parce que ça vous exerce à chercher l'information, ça vous exerce à la raconter. Et puis ensuite, évidemment, mon aspiration était de faire des formats beaucoup plus longs, et en découvrant en effet l'économie telle qu'elle était racontée par Capital et Emmanuel Chin, là, je me suis dit, il y a quelque chose de très important, parce que on ne raconte pas uniquement l'économie financière, on raconte des aventures humaines.
Voilà, mais en même temps, vos petits sujets, il y avait des choses étonnantes. Vous avez interviewé un arbitre à Roland-Garros un jour. Vous avez interviewé Alexandre Jardin qui vous a raconté comment il a passé le bac. Absolument. En ayant une histoire d'amour avec celle qui l'a interrogé. C'est des sujets tout à fait originaux à chaque fois.
Oui, parce qu'en fait, je me souviens, on faisait dans le journal du soir 3 avec Christine Ockrent, on faisait des séries d'interviews, des séries de sujets, etc. Et je pense que ça devait s'inscrire dans ma première fois, donc des événements marquants. Donc je faisais aussi bien de l'actualité des sujets qui étaient très anglais, sur des portraits, etc. Mais vous faites le tout venant quand vous êtes un jeune journaliste. C'est ça qui est passionnant.
Oui, et puis vous avez interviewé un jeune ministre du budget qui venait de tomber l'avant-veille, qu'on connaissait à peine, qui s'appelait Nicolas Sarkozy.
Absolument.
Ça aussi, c'était un grand souvenir. Parce qu'en plus, vous l'avez ensuite interviewé à l'Élysée.
Oui, je l'ai interviewé plusieurs fois, et puis parce que à l'époque, on était en 1993, il y avait eu un renouvellement du personnel politique, notamment à la Chambre des députés, parce que il y avait eu des législatives, et vous aviez eu une vague de nouveaux députés, dont Nicolas Sarkozy était, et donc je l'avais interviewé pour la première fois à ce moment-là, mais ensuite je l'ai interviewé sur le plateau de Capital, alors qu'il était ministre de l'économie et des finances, et puis ensuite à l'Élysée.
Il vous a dit d'ailleurs dans sa première interview « Je ne suis pas plus ambitieux que les autres, ma seule ambition est de travailler en aimant ce que je fais ». C'est une belle formule.
C'est une formule intéressante, oui, en effet.
Vous pensiez à l'époque qu'il deviendrait président de la République ?
Je m'interrogeais pas sur... c'est marrant, je voyais que c'était un homme très ambitieux. Je n'avais pas de point de vue très développé sur la question, mais je trouvais que c'était un homme, effectivement, qui était... comme beaucoup d'hommes politiques d'ailleurs, extrêmement ambitieux.
Et puis vous avez rencontré un autre président, mais on va l'évoquer à travers une autre date importante dans votre vie, le 30 juin 2022. A tout de suite sur Sud Radio avec Guy Lagache.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais
Le principal, c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Sud Radio Tulle.
95.4.
Sud Radio. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie. Mon invité Guy Lagache. Nous parlerons tout à l'heure de ce livre qui est lié à un documentaire, Le cri de la forêt, aux éditions du Rocher. On a évoqué votre parcours, vos débuts de journaliste. Et puis le 30 juin 2022, un reportage pour l'histoire.
Qu'est-ce qui se passe ? Non, on essaie de coordonner les choses sur la Russie, là. Essayer de faire.
À 21h10, France 2 diffuse un documentaire, Un président, l'Europe et la guerre. Une aventure que vous n'auriez jamais imaginé, Guy Lagache.
Ah non, jamais. Il se trouve que tout a commencé en octobre-novembre 2021. Et je savais qu'à partir du 1er janvier 2022, la France allait prendre. Et donc le président de la République allait prendre la présidence du Conseil de l'Union européenne. En gros, dans l'Union européenne, tous les 6 mois, vous avez une présidence tournante et un pays, pendant 6 mois, prend la présidence de l'Union européenne. Et ça allait devenir le tour de la France. Et donc c'était la première fois depuis 14 ans. Et donc je trouvais qu'il était intéressant de faire un grand récit télévisuel sur l'Europe à travers le quotidien du président entouré de ses équipes pour produire de l'Europe, pour faire de la politique, pour faire évoluer la politique européenne. Pourquoi ? Parce que l'Europe me semblait, et pour beaucoup de gens, technique, lointaine, technocratique. Et donc c'était une façon, me semble-t-il, d'intéresser le grand public à la chose européenne, qui, encore, n'est pas forcément le cas. Et donc, je suis allé voir l'Élysée, mais on était bien avant l'invasion russe en Ukraine, et ils ont accepté l'idée de ce projet que j'ai proposé donc à France Télévisions. Et pour faire ce documentaire, j'étais immergé dans la cellule diplomatique pour donc parler d'Europe, du point de vue du président et de ses équipes, au quotidien. Avec une petite caméra qui pouvait être un iPhone ou un caméscope qu'on utilise pour filmer sa famille ou ses enfants. Et il se trouve qu'à partir du 1er janvier 2022, où j'ai commencé à filmer tout seul, j'étais pas caméraman, eh bien commence à monter la possibilité d'une agression russe en Ukraine, qui interviendra donc le 24 février. On est début janvier. Et ce faisant, petit à petit, je commence à filmer de plus en plus fortement des réunions à l'intérieur de l'Élysée sur la préparation d'une agression russe en Ukraine, ou en tout cas le risque d'une agression russe en Ukraine. Et je me retrouve ainsi. Ça n'a pas été simple à faire, hein. Il a fallu faire preuve de beaucoup de conviction pour obtenir que les portes ne se ferment pas, qu'on me laisse filmer à l'intérieur. Mais ainsi, j'ai raconté comment, avant, pendant l'invasion et après l'invasion, l'Élysée, le président, ses conseillers et ainsi l'Union européenne, en gros, en coulisses, a vécu de l'intérieur cette tragédie, ce retour du tragique dans l'histoire que constitue l'invasion russe en Ukraine.
Et cet extrait qu'on a entendu avec Emmanuel Macron, il a accepté d'être filmé jusqu'au bout. Vous avez même été dans son avion, je crois.
Ah bah oui, c'est l'extrait que vous avez évoqué, c'est un extrait du 2 février 2022, là je suis dans sa voiture, on rentre à 1h du matin d'un meeting, et donc il est au téléphone avec des interlocuteurs, et c'est à ce moment-là qu'on aborde la question russe, et on est dans sa voiture, dans le noir, je le filme, et ce qui était intéressant, c'est d'être dans des situations du quotidien du président, et évidemment, je l'ai suivi aussi en déplacement, aussi dans différentes capitales européennes, à Bruxelles, en Allemagne, etc., à Moscou, à Kiev, avant la guerre, puis ensuite on est retourné à Kiev, en juin 2022 en train pour aller à rencontrer Volodymyr Zelensky en pleine guerre. Donc il y avait quelque chose de d'épique d'une certaine manière dans la façon dont les choses se passaient, se déroulaient, et effectivement de vivre l'histoire qui se déroule en direct sous vos yeux, et ce jusqu'à aux conversations entre le président et Vladimir Poutine que j'ai pu documenter.
Oui, et en même temps on apprend quelque chose, c'est qu'un jour Vladimir Poutine a interrompu une conversation parce qu'il avait un match de hockey sur glace, et le hockey sur glace est très important en Russie puisque l'équipe qui a été créée en 93 après la dissolution de l'URSS a été la première à gagner le championnat du monde.
Oui, parce que, enfin, il se trouve que 4 jours avant le début de la guerre, il y a une conversation, l'une des dernières conversations du président de la République avec Vladimir Poutine. Et cette conversation, je l'ai filmée dans le bureau du patron de la cellule diplomatique de l'Élysée, Emmanuel Beaune, avec les conseillers autour, alors que cette conversation avait lieu par téléphone entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron. Et donc c'est une conversation qui dure 1h45, où le président tente de faire désescalader, si vous voulez, les tensions, et persuader avec des arguments intellectuels, rationnels, Vladimir Poutine, de calmer le jeu, et bref, pour empêcher que le pire n'ait lieu. Bon, et c'est une conversation intéressante parce que on voit de l'intérieur d'abord comment deux chefs d'État se parlent, ce que signifie une franche conversation. On voit les arguments et on voit la robustesse en fait et la dureté de la conversation. Et ça, c'est intéressant parce que quand vous filmez ça, vous vous dites mais ça c'est l'histoire en direct. Et parce que c'est sans précédent d'une certaine façon de
totalement
voir. Réellement les choses se déroulaient sous vos yeux.
Et puis vous avez été, je crois, admis dans le sein des saints, qui est le bunker de la force atomique à l'Élysée. Ça, c'est rare aussi.
Oui, ça se passe le matin du 24 février donc 2022, quelques heures après le début de l'invasion russe. Le président de la République convoque un conseil de défense restreint et qui a lieu dans les sous-sols de l'Élysée, dans le bunker atomique, d'où peut être déclenchée l'arme nucléaire.
Alors ce qui est assez étonnant, c'est que le code secret, le président l'a sur lui, mais je ne sais pas si vous connaissez l'anecdote, François Mitterrand le récupère un jour sur un petit collier, il l'oublie dans sa veste et la veste part au pressing. Il s'en est aperçu à temps et on a envoyé un motard récupérer la veste avec le code atomique.
Ah oui, en effet, j'ignore cette anecdote.
Alors, il se trouve aussi qu'il y a une chaîne célèbre aujourd'hui, C8, mais que vous avez été l'un des fondateurs, l'un des pionniers de Direct 8.
Alors, fondateur, non.
Pionnier.
Mais j'ai été directeur des programmes, puis ensuite directeur de l'information et des magazines, lorsque Direct 8 s'est renommé D8, qu'elle était dirigée à l'époque par Ara Aprikian et Xavier Gandon, qui sont aujourd'hui à TF1. Et donc, j'ai pris énormément de plaisir à, auprès d'eux, recréer la ligne éditoriale, ou en tout cas la renforcer, sur l'aspect information, documentaire et magazine. Ça a été une période très intéressante parce que il s'agissait que D8 à l'époque est une place qui soit perçue comme une grande chaîne, alors que on n'avait pas évidemment les moyens d'une grande chaîne, et ce qui était passionnant, c'était de créer une ligne éditoriale qui soit très singulière, pour qu'il y ait une identité propre, alors que c'était une chaîne, évidemment, avec beaucoup de divertissement, incarné déjà par Cyril Hanouna. Et donc, il fallait, à côté de cela, de pouvoir faire une proposition d'information et journalisme qui soit distincte de ce qu'on pouvait trouver sur les autres chaînes.
Et puis en plus, vous avez une caractéristique, Guy Lagache, vous êtes aussi bien journaliste que directeur de chaînes ou de journaux. Vous avez tout fait, c'est assez rare ce genre de choses.
J'ai eu la chance de faire un certain nombre de métiers dans le journalisme, puisque en effet diriger des unités de programme, proposer donc des lignes éditoriales, diriger des équipes, ça a fait partie effectivement de l'expérience que j'ai eu la chance d'avoir. Et aujourd'hui, je suis ravi de revenir à mes fondamentaux, c'est-à-dire que fort de cette expérience, même en ayant été à Radio France pour diriger les antennes pendant une année, ça m'a donné, comment dirais-je, de la réflexion sur les médias, sur la façon de faire des contenus, sur la façon de s'adresser au public de façon différente. Et aujourd'hui, en faisant du documentaire, en écrivant des bouquins, ça me permet aussi, fort de cette expérience, ça me permet, me semble-t-il, de proposer une perspective différente sur les sujets qui me semblent fondamentaux pour le spectateur et le lecteur que nous sommes tous.
Ah, la devise de Sud Radio, c'est « Parlons vrai », et je crois que ça pourrait être la vôtre, parce que quand on voit vos reportages, vous n'avez jamais été dupe de rien. J'en veux pour preuve les reportages sur les personnalités controversées de Michael Jackson à Paulo Sulitzer. Ça, c'est aussi votre règle de conduite, Guy Lagache.
Oui, quand j'ai fait ces reportages-là, je les ai fait notamment pour Capital, parce qu'il y avait un substrat économique que je trouvais intéressant et qui était une façon d'avoir une lecture sur ces personnages-là. Quand vous faites une enquête sur les coulisses de l'édition, ça date un certain temps, dans lesquels, effectivement, à l'époque, on s'en souvient peut-être pas, mais Paulo Sulitzer est vraiment signé des best-sellers, et il y avait un système Sulitzer. Donc, à l'époque, dans les années 90, j'avais fait toute une enquête sur la façon de fabriquer des documents, sur les coulisses de l'édition, etc. Mais ce qui était intéressant, c'était le substrat économique de cela, parce que ça vous permettait une lecture un peu différente. Et c'est ça que j'aime bien dans le journalisme, et notamment, là, on va aborder la question de l'environnement, parce que ça, c'est des prismes de lecture qui vous emmène ailleurs sur des sujets pourtant fortement traités.
Et vous avez toujours fait votre travail sans jamais rien regretter. Et aujourd'hui encore, je crois que vous êtes profondément guidé par votre père, Guy Lagache.
Oui. Oui, mon père m'a toujours appris à, comment dirais-je, à avoir une forme d'émerveillement. Ce qui compte, c'est ce que tu vas faire demain et d'être toujours ouvert à ce qui peut arriver en ne renonçant jamais à ses convictions. Ça, c'est très important. Jamais, 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 jamais.
C'est une qualité rare aujourd'hui de ne pas renoncer à ses convictions, Guy Lagache.
En tout cas, moi, je suis foutu comme ça. C'est-à-dire que, voilà, ça n'a pas toujours été très simple. J'ai pris des risques, j'ai fait des choix qui étaient pas forcément évident, mais ça me permet en tout cas d'être cohérent par rapport à moi-même.
Et vous avez toujours rebondi quand il y avait un trou d'air.
Disons que vous connaissez ce métier, hein, il y a des périodes désertiques, on va dire. Donc quand vous faites ce métier, il faut avoir le cœur un peu, les nerfs un peu solides, et c'est là où les convictions sont importantes, parce que elles vous ramènent à ce pourquoi vous faites ce métier. Et je suis toujours revenu à ça dans les moments les plus délicats de ma vie professionnelle, et il y en a eu.
Et là, il y en a un qui est très important, c'est celui qu'on va évoquer à travers la date du 3 avril 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Guy Lagache.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Dis donc, cher voisin, on s'est offert une pergola.
Oui, une pergola bioclimatique à prix direct usine. Et je l'ai montée moi-même.
Et tu l'as dénichée où, cette petite merveille?
Sur usineonline.com. Tu choisis tes options et dimensions. Tu trouves tout. Des pergolas, stores, carports, portes, portails, peintures.
Des fenêtres et volets aussi?
Tout. Et en ce moment, ils sont en promotion à moins de 30% avec livraison offerte.
Usineonline.com? Faut que j'en parle à ma femme. Chérie!
Usineonline.com. Cliquez, commandez et profitez.
Sud Radio Paris.
99.9 et en DAB+.
Sud Radio.
Tota totalité. Tota totalité. Tota totalité. Tota totalité.
De mon amour, je te donne la totalité. Mes arrivées, mes départs, la dualité.
futur. Quand j'envisage en démesure de mes douleurs, de mes joies, la réalité.
Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Tu sais je vais tout tenter et je te donne la totalité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Oh, oh, oh. Moi je te donne ma totalité. Oh, oh, oh. Moi je te donne ma totalité.
De tous mes torts je te donne la totalité. Tous mes défauts j'en ai pas en réalité. Tous mes mensonges, mes humeurs, tous mes envols être ailleurs. Je suis sûr de mes doutes, la complexité.
Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Tu sais je vais tout tenter et je te donne la totalité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Oh, oh, oh. Moi je te donne ma totalité. Oh, oh, oh. Moi je te donne ma totalité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Tu sais je vais tout tenter et je te donne la totalité. Si tu veux bien ma moitié, moi je te donne ma totalité. Oh, oh, oh. Moi je te donne ma totalité. Oh, oh, oh. Moi je te donne ma totalité.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Guy Lagache, on a évoqué votre parcours de journaliste. Et là, il y a une chose très importante qui se passe dans votre vie, c'est vraiment le documentaire et le livre que vous avez réalisé. Livre qui est sorti le 3 avril 2024, Le cri de la forêt, aux éditions du Rocher. C'est le récit du tournage d'un documentaire, Congo, menace sur la forêt tropicale, pour Ushaya TV. Comment c'est né cette histoire-là?
Ben, en fait, si vous voulez, grâce à mon producteur Guillaume Roy et Christophe Sommet, patron des chaînes thématiques du groupe TF1, il m'a été donné la possibilité de refaire du terrain alors que je sortais de d'abord d'années de management. J'avais été donc à Radio France, etc. Et on me demande si ça m'intéresserait de repartir sur le terrain. Et il se trouve que l'environnement est, à mon avis, une question clé. J'avais initié avec mes camarades de Capital, Jean-Bernard Schmitt et Emmanuel Leclerc, il y a 15 ans, la première série d'enquêtes, d'investigations environnementales, l'une des premières séries, qui s'appelait Capital Terre, et ça ne m'a jamais quitté. Et là, je me suis dit que là où, il y a 15 ans, on avait raconté l'impact de notre mode de vie sur la planète et, comment dirais-je, d'un bout à l'autre de la planète, ce qui me semblait important, c'était d'aller, non seulement de continuer à raconter ça, mais d'aller au-delà pour raconter ce qui me semble être notre défi aujourd'hui, maintenant que le changement climatique s'impose dans notre vie. On le voit dans l'actualité, les inondations dans les Hauts-de-France, les incendies, la sécheresse, les canicules à répétition d'année après année. Donc le changement climatique est désormais fait partie de notre quotidien. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir comment on s'adapte à cela. Et donc, pour cela, j'ai proposé à Ushuaïa de faire une série qui s'appelle Terre d'urgence et qui irait explorer les communautés les plus fortement touchées par le changement climatique. Et donc, j'ai fait une série de films, dont l'un d'eux est sur la déforestation dans un écosystème qui paraît bien lointain, en apparence, puisqu'il se situe à 6000 km de chez nous, qu'il est sous les radars médiatiques, et pour autant, il nous est absolument vital. Cet écosystème, c'est la forêt du bassin du Congo. Pourquoi ? Parce que c'est le premier poumon de la planète après l'Amazonie. C'est-à-dire que il séquestre le carbone, relâche de l'oxygène dans l'atmosphère, et sans cet écosystème, notre vie, la vôtre, la mienne, celle de tous ceux qui nous écoutent, de tout le monde, n'est pas possible. Ou alors, au prix de cataclysmes climatiques terribles. Et ce qui m'intéresse à ce moment-là, c'est de dire, cette forêt est en train d'être détruite. À raison d'un hectare chaque minute. Jusqu'où cette déforestation va-t-elle avoir lieu? Qui en est responsable? Pourquoi? Qui est en train de se battre pour la préserver? Comment? C'est ça qui m'a guidé dans ce récit, à la fois documentaire et ce livre.
Alors c'est pour ça que vous êtes allé là-bas, alors que personne ne parlait effectivement du Congo, on parlait de l'Amazonie. Vous arrivez à Goma, et Goma, il faut savoir que c'est un explorateur, Gustav Adolf von Godzen, qui a découvert un village de pêcheurs appelé Nengoma, ce qui signifie tam-tam en swahili, et il en a fait Goma. C'est comme ça que c'est né.
Ça, vous m'apprenez quelque chose, Jacques.
Alors, là-dessus, vous allez commencer un voyage que vous racontez dans ce livre, un voyage passionnant, périlleux, qui commence par des rencontres avec des pygmées qui acceptent que vous les filmiez, Guy Lagache.
Oui, il y a les peuples autochtones, les Batois, sont un peuple qui vit de la forêt et par la forêt. Or, cette forêt se meurt. Donc, ce qui m'intéressait, c'était d'aller comprendre comment, d'abord, ils vivent, et comment ils s'adaptent à cela, et qu'est-ce que représente la forêt. Pourquoi cette forêt, de façon extrêmement concrète, est si essentielle à l'humanité? Et donc, en vivant avec les Batois, qui sont à 2500 mètres d'altitude, parce qu'il se trouve que cette partie donc du Congo, qui est à la frontière du Rwanda, qui s'appelle le Kivu, dont la capitale en effet est Goma, est très montagneuse, et vous découvrez à ce moment-là, ça a été mon expérience, que la forêt est absolument indispensable pour manger, pour se nourrir, parce que vous allez cueillir dans la forêt, vous allez chasser dans la forêt, mais aussi pour se soigner. Car quand vous avez un mal de tête, il faut aller dans la forêt pour avoir de l'aspirine, parce que l'aspirine, en réalité, c'est une écorce d'arbre. Quand vous avez une rage de dents, vous allez dans la forêt. Pourquoi ? Parce que là, vous avez des plantes avec des tiges et des racines qui vous permettent de soigner vos rages de dents. Quand vous avez le palu, vous allez dans la forêt parce qu'il y a de l'eucalyptus et que ça vous permet de vous soigner, etc. Et donc, c'était à la fois passionnant, ne serait-ce que d'apprendre cela, de l'apprendre par la vie des gens. C'est toujours ça qui est intéressant.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est la joie qu'ils dégagent, car il y a des danses le soir, et les seuls moments de bonheur de ces gens qui n'ont rien, c'est la danse et la joie.
Absolument. La joie fait partie de leur culture, c'est absolument indispensable, parce que c'est ce qui leur reste quand il n'y a plus rien. Pourquoi ? Parce que cette forêt, ils en sont victimes, parce qu'elle se détruit année après année, et elle rétrécit.
Et alors, il se trouve qu'il y a une chanson aussi qui peut résumer ce que vous avez vécu. C'est les coupeurs de bois.
Couper du bois de l'oseille. Pour couper du bois, surveille. C'est coupeur de bois, c'est bien son droit.
Alors ça, c'était au Québec dans les années 50, quand Charles Trenet voit des vrais coupeurs de bois et il y a des bois. Mais là, vous tombez sur des trafiquants. Et c'est assez étonnant ce livre et ce film, parce qu'on se rend compte qu'il y a un véritable trafic du bois et du charbon qui est en train de ruiner la planète.
Oui, parce qu'en fait, tout ça revient à une question qui est celle de l'énergie. L'énergie nous est absolument indispensable, et là-bas aussi, sachant que 90% de la population au Congo n'ont pas accès à l'énergie. Donc la seule énergie, la seule source d'énergie disponible, c'est le charbon de bois issu des forêts primaires qui sont donc transformées en makala, comme on dit en swahili, et ça fait l'objet d'un commerce illégal qui nourrit, et c'est très important, c'est un aspect de l'environnement qui est essentiel, qui nourrit la guerre qui a lieu dans cette partie du monde, qui est une des guerres les plus meurtrières depuis la Deuxième Guerre mondiale.
Oui, enfin, un trafic accepté, puisque le préfet lui-même ferme les yeux parce que son frère, lui, s'occupe de trafic, c'est ça?
Oui, c'est ce qu'on découvre dans le livre. C'est parce qu'effectivement, il y a évidemment une problématique qui est abordée, qui est celle d'un, d'un État qui est non seulement exsangue sur toutes les forces de l'ordre, sur la façon de pouvoir réguler comment dirais-je, administrer la cité, et puis aussi, par bien des aspects, corrompu, comment dirais-je, et perverti par certains, dans la façon, évidemment, d'être de connivence avec les trafiquants et avec les groupes armés, parce que ce commerce fait vivre des communautés entières.
Oui, d'ailleurs, la corruption est partout quand on lit votre livre, Guy Lagache. Et d'ailleurs, pour filmer ces gens-là, il a fallu mettre beaucoup d'argent sous la table.
Disons qu'il faut à chaque fois... on est dans des rapports de force. Donc, je passais mon temps à me battre pour ne pas payer. Donc, par exemple, quand vous voulez rentrer dans avec les trafiquants, pouvoir rencontrer des trafiquants, vous êtes obligé d'aller parler avec les groupes armés. Alors les groupes armés, ce sont des gens qui sont quand même extrêmement violents parce que ils s'emparent d'un territoire en le pillant, en tuant, en violant, et ensuite ils ont la main sur un territoire et ils exploitent les ressources minières. Et le bois. Et donc, simplement, quand vous essayez de les convaincre de vous laisser avoir accès aux coupeurs de bois, la première chose qu'ils vont vous demander, c'est qu'est-ce que vous m'offrez en échange. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'essayer d'éviter de payer, mais en même temps, de pouvoir leur offrir quelque chose. Donc, là, en l'espèce, le capitaine Freddy, qui était un des, comment dirais-je, chefs de la zone issu du FDLR, qui est le Front de Libération du Rwanda, des Hutus, donc, je leur promets de leur offrir mes Tokiwoki. Et donc, c'est ça qui va me permettre de pouvoir pénétrer la zone et de filmer, donc, les trafiquants et les coupeurs de bois.
Est-ce qu'on apprend aussi, Guy Lagache, parce que dans votre livre, la corruption est partout, même la sécurité des territoires, l'inspecteur qui vous arrête, pour arrêter les choses, il faut le corrompre.
Oui, et en même temps, je porte pas non plus de jugement, c'est plus complexe que ça. C'est-à-dire que, oui, effectivement, je ne parviens à pouvoir filmer librement que parce que je vais offrir une caisse de bière et un certain nombre de billets. Mais ensuite, la question qui me semble importante, c'est pourquoi ? Pourquoi ça se passe ainsi ? Il faut savoir que les fonctionnaires sont pas toujours payés régulièrement, qu'ils sont payés parfois des misères. Et donc, on est dans un système dégénéralisé. Et ça aboutit à des situations comme celle-là. Mais c'est pas le plaisir d'être corrompu qui aboutit à la corruption.
Et puis, il y a quand même au milieu de tout ça ceux qui ont le courage de se battre. Et vous évoquez un conservateur d'un parc, un anthropologue belge, Emmanuel de Mérode, qui lui a même risqué sa vie pour défendre la nature et les forêts.
Absolument. Lui, c'est quelqu'un qui est perçu par beaucoup comme une figure héroïque parce que il se bat de toutes ses forces pour préserver le parc des Virunga. Le parc des Virunga, c'est le plus grand, le premier parc national d'Afrique, une biodiversité exceptionnelle, il a avec lui 800 rangers qui se battent contre les braconniers, contre les trafiquants, contre les groupes armés, parce que la problématique de ce qui se passe sur le makala, donc le charbon de bois, c'est pas simplement, comme le dit d'ailleurs lui-même Emmanuel de Mérode, une question environnementale, c'est une question sociale, c'est une question économique et c'est une question de sécurité nationale, parce que là-dedans est lié les prolongements du génocide du Rwanda et est lié aussi la guerre qui sévit de façon absolument dramatique sous les radars médiatiques depuis maintenant 30 ans dans cette partie du Congo.
Mais ça, c'est le côté négatif, mais il y a aussi le côté positif que vous évoquez dans ce livre. La solution, c'est l'argile.
Alors oui, il y a beaucoup de solutions qui sont portées par des jeunes entrepreneurs congolais. Cédric Muliri, qui a une organisation humanitaire qui m'a emmené notamment en pays batois et qui développe une solution basée sur l'argile. Donc c'est la terre locale et qui a une très forte capacité calorifique et donc qui peut devenir un substitut au macala. Vous avez un autre entrepreneur qui utilise les déchets organiques, la nourriture, la paille, etc., pour fabriquer du macala aussi écologique. Et donc, ces solutions existent comme alternative à l'exploitation du bois. Mais ces entrepreneurs sont pas accompagnés comme les entrepreneurs en Occident peuvent l'être, soit par d'autres entreprises, par des financements, soit aussi par des organismes publics. Donc, si vous voulez, il y a vraiment un besoin, me semble-t-il, de s'emparer de ce qui se passe là-bas, parce que ça nous concerne nous aussi.
Voilà. Et la COP 28, vous le dites dans le livre, n'a rien fait pour ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment besoin d'argent. Il faut vraiment que les États s'y mettent. Alors, ce film et ce livre, c'est le début d'une aventure. Le cri de la forêt, c'est un premier livre. Vu le nombre de films que vous avez réalisés, est-ce qu'il n'y aura pas une suite, Guy Lagache ?
Écoutez, en tout cas, c'est un sujet qui me semble absolument essentiel. Donc, si l'occasion m'est donnée, évidemment, il y en aura d'autres. Évidemment.
Parce qu'aujourd'hui, tout est possible. Le monde peut être sauvé à partir de choses très simples.
Disons que on ne se rend pas compte que le génie humain permet d'envisager des alternatives qu'on ne soupçonne pas a priori. Et simplement, je l'ai vu à travers tous mes documentaires que j'ai fait récemment sur la question environnementale, que ce soit en Mauritanie par rapport aux problématiques de l'eau dans le désert, ou que ce soit dans le golfe du Bengale à la frontière entre le Bangladesh et l'Inde sur la montée de l'océan. On voit toutes les initiatives qui sont mises en place. Le problème, si vous voulez, c'est que il y a besoin, comment dirais-je, d'un appui global de la communauté internationale qui doit, s'allier à toutes les forces qui sont aujourd'hui en train de trouver des solutions pour qu'elles deviennent systémiques et qu'elles deviennent massives.
C'est essentiel, et ce qui est essentiel aussi pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est de se lire ce livre, à la fois plein d'enseignements et passionnant comme un roman, Le cri de la forêt, aux éditions du Rocher. Merci de l'avoir écrit, et merci de continuer ces combats, Guy Lagache, avec votre côté persuasif et convaincu.
Merci infiniment, Jacques.
Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élu voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal, c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Sud Radio à Morlaix en DAB+.
Sud Radio.
Sud Radio.
Sud Radio.
I've been dreaming friendly faces. I've got so much time to kill. Just imagine. People laughing, I know someday we will. And even if it's far away, give me